neutralisation des réseaux qui nous intéressent.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Caesar, hear me, the merchant of Venice getting to your CD. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not too near.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous
bonsoir.
Sommes le mercredi 27 novembre 2018.
Non.
Le 7 novembre 2018, il est 19h passé de 6 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir,
à Marseille, ça s'est effondré d'un coup et multiplement. On va en reparler.
Ensuite, on parlera extension du domaine de la pub en 2020 à Lyon.
Quelques brèves de frontières.
Ensuite, on aura très vraisemblablement une petite pause musicale avec un rap anti-Bolsonaro.
Et puis, des paysans qui résistent aux attaques de l'État, c'est en Colombie.
Ensuite, on aura des nouvelles de Cesare Battisti, qui est à nouveau en danger d'extradition.
Et puis, des petits trucs qui se passent et qui vont se passer dans la rue.
Commencer par quelques brèves.
Et oui, et puisqu'on se terminera par des choses qui vont se passer dans la rue, on va aussi commencer par ça. Mais ça, c'est surtout si vous avez la chance d'être à Paname dimanche prochain. Dimanche prochain, figurez-vous que c'est le 11 novembre. Et pour le 11 novembre 2018, donc pour le centenaire de l'armistice de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron n'a pas trouvé mieux que d'inviter quelques présidents, ma foi, représentatifs de la paix, de l'harmonie et de l'espérance dans un futur plein d'une sorte d'humanité joyeuse, tels que Trump, Poutine ou Netanyahou. Ils seront tous à Paris dimanche prochain. Et il n'y aura pas que eux, puisque « Make anti-imperialism great again », c'est le mot d'ordre de la manifestation qui aura lieu pour protester contre tous ces vilains bonshommes. Vilains bonshommes, donc, qui vont quand même venir à Paris pour, entre autres, inaugurer ensemble un forum de la paix. Oui, c'est bien ça, un forum de la paix. Ça sera dimanche. Et puis, après, un monument au Père Lachaise, blablabla. Bon, il y en a qui n'ont pas de latch. Alors, si vous trouvez à Paris dimanche, n'hésitez pas à aller vous amuser un peu. Il y a quelques appels à manif, plusieurs, dont certains en mode quand même bien vénère, cortège de tête et tout le tintouin. Laurent Carr, c'est Place de la République à 14h. Et la preuve que ça va être une réussite, c'est qu'il y a plein de hashtags, comme hashtag From Paris with Hate, Paris banlieue Antifa, hashtag Make anti-imperialism great again et hashtag Fuck Trump.
Et ce matin, une sixième personne a été retrouvée morte sous les décombres des deux immeubles d'habitation effondrés lundi matin au numéro 63 et 65 de la rue d'Aubagne à Noailles. Donc des personnes sont par ailleurs peut-être toujours dans les décombres. Et il y a 8 personnes qui sont toujours portées disparues, 5 locataires et 3 autres personnes. Et donc, suite à l'effondrement des deux immeubles, il y en a 2 supplémentaires qui sont fragilisés, ce qui arrive souvent quand il y a des effondrements de locaux comme ça. Et donc, beaucoup d'habitantes à Marseille s'interrogent sur les choix financiers de la ville en matière de rénovation urbaine. Et il y a de quoi. Car la rénovation de ces immeubles était à la charge de la Soleam depuis 2011, dont Chenoz, c'est l'adjoint au maire qui est également directeur de la Soleam. Et c'est une société mixte, d'économie mixte, la Soleam. Mais c'est des fonds publics qui arrivent là-dedans. Et qui est en charge du remaniement urbain à Marseille. Et dans le cadre de l'opération d'aménagement grand centre-ville, la ville de Marseille avait confié donc en 2011 la réalisation de l'aménagement du quartier de Noailles à la Soleam. Et donc bah, ça fait grand bruit quand même que ces deux ces immeubles s'effondrent. Donc il y en avait un qui était muré et l'autre dont les travaux de rénovation venaient d'être terminés il y a quelques semaines, je crois le 18 octobre, les gens avaient retourné habiter chez eux, quoi. Bon, donc le constat est rude, trop peu d'investissements dans la réhabilitation de certains immeubles vétustes a coûté la vie à plusieurs personnes, sans compter les 400 000 euros investis à la plaine pour la construction du mur ces derniers jours. Donc on est en droit de se demander comment la Soleam pense ses priorités. Dépenser 20 millions d'euros pour gentrifier une place qui ne nécessite que quelques réparations et ne rien investir dans la rénovation d'immeubles délabrés, c'est un choix. Et donc, la Soleam franchit allègrement du coup, le drame en réaffirmant son mépris des classes populaires et en assumant le fait que ses profits valent plus que des vies. Et un nouveau, du coup, par rapport à la plaine et à la construction du mur, parce que c'est...
Peut-être il faut que tu reviennes un tout petit peu sur ce mur.
Oui, parce que en fait, depuis quelques semaines à la plaine, il y a eu donc ça fait depuis pas mal de mois, voire d'années. Donc la ville de Marseille, grand changement urbain, gentrification à tout va, et donc la plaine essayait de rentrer.
La plaine qui est un quartier de Marseille.
Voilà, qui est un quartier de Marseille au-dessus du quartier de Noailles, qui organisait une lutte autour de la réorganisation de la place, la planifiée par la ville, et donc une lutte qui a été mise en place. Sauf que là, ces dernières semaines, des arbres ont été coupés alors qu'ils devaient être déplacés. Et donc, les gens habitant sur le quartier et sur la ville se sont un peu bougés pour dire en fait, non, nous, on veut avoir de la place dans le choix du réaménagement de cette place et des travaux. Et en fait, il n'y a pas tant que ça de travaux à faire. Et puis, laisser le marché qui est là, laisser cette place populaire comme elle l'est. Et du coup, ça s'est amplifié des deux côtés, si bien que de l'autre côté, la Soleama et la préfecture et tout ça, ils ont décidé de construire un mur. Et du coup, la place, là, actuellement, est encerclée. C'est pour ça que je vais parler de fortification.
De construire un mur pour protéger le chantier qu'ils ont déjà commencé, mais qui est quand même en but à de multiples petites attaques, dégradations diverses et variées.
Eh bien oui, c'est ça dont j'allais parler, parce qu'un nouveau coup de Mistral, dimanche 4 novembre au soir, a fait vaciller ce mur de mépris. Et donc à la nuit tombée, 5 pans du mur se sont écrasés au sol suite à une bourrasque de rage populaire. Et il n'a fallu que quelques minutes pour faire tomber ces blocs de béton de 3 tonnes chacun. Le phénomène s'était déjà produit 2 jours auparavant, vendredi soir, et 2 blocs étaient tombés. Là, il faut bien se rendre compte que Gaudin, le maire, Chenot et la préfecture n'ont pas pris la mesure de l'affront qu'ils ont fait au quartier. Et ils sont quand même lancés dans la construction d'un mur de 1000 tonnes de béton pour sécuriser le chantier et tenter de faire ces travaux de valorisation de la place. Mais il semblerait que de nouveaux avis de tempête sont annoncés pour les jours et les semaines à venir. En attendant que le mur tombe définitivement, là, les habitantes du quartier viennent y exprimer plein de colère et plein de choses. Je vous conseille d'y aller ou d'aller voir des photos, des tags qui sont écrits là-dessus. Et aussi, puisqu'on est à la radio, parlons de radio, il y a... un Saint-Claude allume la plaine qui a été fait, je crois que c'était le 31 octobre, donc samedi. C'est un flux radio de presque 5 heures avec des sons de Radio Galère, Radio Grenouille, ces deux radios marseillaines, Zibline Radio, et des sons d'amis récoltés ces dernières semaines et des messages de soutien. Donc si vous avez envie d'écouter 5 heures pour en savoir plus sur la plaine, donc c'est sur Saint-Claude et c'est Allume la plaine.
Le collectif Plein la Vue et le groupe historique Résistance à l'agression publicitaire ont dimanche dernier recouvert des panneaux publicitaires pour interpeller la métropole. Alors, ils ont recouvert les panneaux avec des affiches de même taille qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes, sur lesquelles on peut lire, par exemple, une affiche où il y a une grosse tache noire, et puis c'est écrit marée noire sur matière grise, ou une autre affiche avec une sorte d'étoile rouge très publicitaire, mais un peu au marqueur, où c'est écrit tout doit disparaître, stop la pub. Bon, c'est plutôt joli. Les gens qui font ça ont un discours, ma foi, extrêmement réformateur. Eux, ils voudraient qu'il y ait moins de publicité dans l'espace public, que les choses soient un petit peu plus raisonnées, un petit peu plus encadrées. Ils ne sont pas radicaux, mais c'est quand même eux qui attirent notre attention sur le fait qu'il va y avoir un nouveau RLPI pour Règlement Local de Publicité Intercommunale qui va être appliqué à partir de 2020 et qui, au milieu de tout un tas d'autres mesures, dont il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont l'air sympathiques, même si alors il y a très légèrement un peu plus d'encadrement. Les publicités de 12 mètres carrés devront avoir une autorisation spéciale. Bon, en réalité, à Lyon, il y a extrêmement peu de publicités de 12 mètres carrés, du coup, ça ne changera pas grand-chose. Et par contre, ce qui va changer, c'est qu'ils vont autoriser massivement des écrans vidéo publicitaires qui, pour l'instant, sont interdits. Alors moi, ça m'étonne parce que je trouve qu'on en voit un petit peu. Du coup, j'ai pas compris exactement. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont plutôt interdits et après, ils vont être massivement autorisés. Ça va aussi être une grosse extension des affiches sur des bâches géantes, vous voyez, comme les trucs qu'il y a pu y avoir à des moments sur l'Hôtel Dieu, ou des publicités qui, elles, feront pas 4 mètres par 3, mais qui feront quand même plutôt 15 mètres par 15. Quoi.
Les écrans publicitaires, ça, à mon avis, la différence, tu en as déjà vu, mais je pense que c'est pas sur la voie publique. C'est dans des zones comme les gares, métro et centres commerciaux.
Voilà, et l'année prochaine, dans un an et demi, vous en aurez partout.
Et a priori, du coup, ça fait un peu comme de la même manière qu'on avait vu, vous voyez, ces espèces de... Enfin, tu sais qu'il n'y avait plus de panneaux de 12 mètres carrés, là, c'est les 3 par 4, là. Et qu'on avait plus vu les petites, ce qu'ils appellent les sucettes, là, les... Vous voyez, des panneaux un peu comme une grande affiche, par exemple, de JC Deco. Et multiplié de manière complètement exponentielle avec l'apparition du vélo, parce que c'était un des grands deals de la ville de Lyon et de JC Deco de dire bon, moi je fournis ce service là qui est quand même payant pour les usagers et les usagères, mais en contrepartie vous me fournissez de l'espace publicitaire. Et c'est le grand fonctionnement de cette entreprise là, entreprise lyonnaise. Et du coup là, comme les nouvelles technologies marchent un peu ensemble, ces écrans vidéo là sont l'espèce de nouveau deal de JC Deco qui est maintenant je vais mettre en place des vélos électriques. Et du coup pour financer les vélos électriques, et du coup il faut des panneaux publicitaires électriques. Donc, voilà. Donc ça fait un peu un truc, voilà, c'est le progrès selon JC Deco.
Écoutez, à tout moment ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors, eh bien, qui dit brève des frontières, rime rarement avec bonne nouvelle. Alors, on va commencer par le Maroc qui répond du tac au tac à la pression que lui met l'Union européenne concernant sa gestion des migrants. Et quand je parle de pression, il ne s'agit pas, bien sûr, d'aller fouiner dans les geôles de la police marocaine pour trouver des traitements inhumains ou de surveiller leurs gardes-côtes qui tirent à vue sur les embarcations de migrants, tuant et blessant au passage. Non, il s'agit bien d'ordonner au pays de contenir, voire d'éradiquer toute velléité de passage vers l'Espagne. Pression qui a largement augmenté depuis que le Maroc est redevenu un passage stratégique pour passer par l'Espagne. Alors, la dernière intervention du gouvernement marocain a été la création de l'AEVM, hein, qui est pour autorisation électronique de voyage, qui est donc désormais demandée aux ressortissants du Mali, de Guinée et du Congo-Brazzaville. Alors avant ça, ces ressortissants n'avaient pas besoin de visa pour se rendre au Maroc. Une sorte un peu de liberté de circulation à l'image de ce qui se fait en Europe et qui est donc menacé par la pression mise par ces mêmes pays européens. Voilà. Pour le moment, ce dispositif est en phase test et ne sera pas étendu prochainement, enfin d'après les autorités. Le GADEM, association marocaine de défense des migrants, dénonce des reconduites forcées, en plus de tout ça, hein, de subsahariens du nord vers le sud du Maroc. Donc voilà, un peu l'ambiance au Maroc en ce moment.
Il faut que ça se sache.
Et on continue au niveau de l'ingérence européenne au niveau de l'Afrique. Et le 31 octobre était signée une convention avec le Niger, les Pays-Bas et ECAP Sahel, hein, pour mission de l'Union européenne qui aide depuis 2012 le Niger à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Donc cette convention a pour but de financer des forces spéciales nigériennes qui auront pour mission de surveiller les frontières et de lutter contre l'immigration jugée illégale. L'Allemagne dans tout ça va lâcher 6 millions d'euros, les Pays-Bas 4. ECAP Sahel récoltera le pognon et assurera la formation, l'entraînement et l'équipement des policiers, ou comment la lutte antiterroriste, qui est un véritable fléau au Niger, va servir de nouveau à la persécution de migrants.
Il faut que ça se sache.
Et on va faire un tour du côté de la Hongrie, très brièvement. Vous vous souvenez certainement, en septembre 2015, un groupe de migrants avait forcé un cordon de flics hongrois. Une tripotée de journalistes était présente sur place, a donné des images de migrants courant dans un champ, tentant de fuir la police et de passer la frontière. À ce moment-là, une journaliste d'un média d'extrême droite hongrois avait frappé un homme, puis une fille, puis fait un croche-patte à un gars qui s'était retrouvé à terre. Ces images dégueu avaient fait le tour du monde. La journaliste a été jugée, condamnée, puis relaxée par la haute juridiction du pays.
Il faut que ça se sache.
Et demain, jeudi 8 novembre, 7 militants seront jugés à Gap pour aide au passage en bande organisée, en courant jusqu'à 10 ans de prison. Et au-delà de ces personnes, ce sont les solidarités à la frontière que l'État cherche à briser et à criminaliser. Et pour resituer, en fait, le 22 avril, c'était à l'occasion d'une marche transfrontalière de protestation contre la présence de la milice néo-fasciste Génération Identitaire au col de l'Échelle, qui avait entraîné l'arrestation et l'inculpation de ces 7 militants, qui donc passeront demain devant le juge.
Il faut que ça se sache.
Et maintenant, écoutez, on va. Voilà, c'est Radio Canu. On n'hésite pas à vous passer des morceaux de musique un petit peu longs. Et là, il s'agit d'un morceau qui s'appelle Primavera Fascista. C'est le titre d'une chanson de rap, une chanson combative contre le président Jair Bolsonaro. 7 MC de rap se sont associés pour écrire et interpréter cette chanson qui dénonce et qui répond aux discours les plus haineux et les réactionnaires de Bolsonaro. 9 minutes de paroles percutantes et combatives, idolâtrant des fascistes, soutenant la torture, le peuple manipulé veut te mettre au pouvoir, je suis la guerre civile, je ne crains pas ta dictature, voilà comment commence la chanson. La chanson passe aussi par des « Je suis Marielle » et « Maître Moa ». Alors Marielle, on se rappelle que c'est Marielle Franco qui était une conseillère municipale, mais... noire, de gauche, lesbienne, qui à un moment s'est opposée à une intervention militaire dans la ville par, il me semble, des groupes paramilitaires en réalité, et qui s'est fait tuer à ce moment-là. Du coup, hommage lui est rendu dans la chanson, ainsi qu'au maître de capoeira, Moa do Katende, qui a été assassiné par un électeur de Bolsonaro. La chanson dénonce aussi à plusieurs reprises le machisme et l'homophobie. Vous allez voir, moi je ne parle pas portugais, mais le mot homophobie, on l'entend un certain nombre de fois. Et puis la corruption, le parti social libéral, etc., etc., etc. Cette chanson a été mise en ligne le 23 octobre, c'est-à-dire avant le second tour sur YouTube. En une semaine, elle avait atteint 1 million de vues, mais au bout d'une semaine, elle a disparu de YouTube. YouTube a expliqué que nous n'acceptons pas de contenu qui engage des activités illégales. Alors, il faut quand même bien dire qu'à côté de ça, tous les discours de Bolsonaro qui sont, pour le coup, ultra racistes, enfin, à chaque mot qu'il dit, c'est déjà un truc qui est puni dans la plupart des pays. Eux sont tous sur YouTube et ils restent. Bon, toujours est-il que toute
raciste,
façon...
Raciste, homophobe et transphobe.
Et sexiste. Et ultra macho. Voilà, en tout cas, bien sûr, faire disparaître une chanson de YouTube, c'est quand même pas facile, donc elle a été retirée, mais elle a été remise, etc. Nous, on n'a pas eu de mal à la choper, pour vous la passer maintenant.
Absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns de nós, tudo bem.
Idolatrando fascista, apoiando a tortura e o povo manipulado quer te pôr no poder. Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura. E se alguém tem que morrer, então que morra você. Cês falam em nome de Deus, mas são diabo. E o seu conceito de família anda atrasado. Sou Marielle, mestre Mo, eu vim da lama lapidado. Pique diamante de Serra Leoa. Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos. E a minoria que eu sou não faz parte dos maus. Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar, porque seu pai pagou 10 anos de facul particular. E você segue sendo nada, mas fala demais. Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais. Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias. Eu sou pequeno e na pedrada eu derrubo os Golias. Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus. Cês estão profetizando votos igual fariseus. Que não acaba com esse vai e vem censários. Pensamento tão mais sujo que seu próprio pau de arara.
Querem provar do meu veneno, então segura. Arregaçando mente sem dar mais pra sutura. Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura, é só mais um cara rico cagando em nossa cultura. Cê jura que a viatura me enquadra porque eu sou suspeito. Tortura é o que fazem comigo dentro dos becos. Essa altura é o diabo no divã, 4 horas da manhã e a polícia injuriando mais um preto. Porra, cês são racistas, cês são fascistas. Vocês estão comendo merda pra votar nessa hiena. Pau no cu do hip hop, foda-se a pop. Dá o Brasil pro hip hop que nós resolve o problema. Os mesmos bucha que votaram no boçal nunca passaram mal na mão do germe na favela. Falar que preto não procria, respeite as minhas origens. Minha mulher e o filho que eu tive com ela. Cê não entende de economia, não, não. Só racismo e xenofobia. Fechadão com ator pornô, Rita Lee de Cagué. Tô aqui num passado bem recente, curtia pederastia. Vai acabar com a regalia, mano, que você tá falando? Sua marra é de ditador, tá mais pra mamador. Mamando em nossa teta há mais de 28 anos.
A plateia composta de 100% gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero. Essa turma toda reunida nessa comissão de direitos humanos e minoria, me dá asco de referir essa comissão.
Agora você de casa contrataria um motorista gay pra levar seus filhos na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara pra encontrar um gay ali, não tinha outro nome, era uma bicha na rua, que era comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, pega um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. E eu olho pra você e falo o seguinte: vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta.
PF7, primavera fascista, isso não é um teste. JBS, pagou o churrasco do PSL. Isso não é um teste. JBS, Jair Bolsonaro safado, conhece?
Vocês estão mal de professor de história. As aulas que você matou de história. As fake news do Face que tu embarcou. Te contou caô e tu acreditou na história. Você acha que eu não sei os motivos pelo qual você quer votar nesse cara? Ele diz tudo o que você quer dizer, mas sua consciência diz, não fala. Agora teu malvado favorito tá representando bem teu preconceito. E pra você, amigo bolsominion, tem 17 balas endereçadas pro teu peito. Falou que a facada é culpa do PT, mas uma teoria da conspiração. Mas essa bancada da bala libera-se PT. Tu
eu já brinquei de Hello Kitty. Nem por isso virei viado. Se fosse por convivência, parceiro, já tinha virado. Tua homofobia não te faz mais macho. A heterossexualidade é frágil. A sua ignorância contamina. Essa doença é resulta de carnificina. Fascismo é um vírus que se dissemina. Informação é a cura e o rap é a vacina.
Agora é guerra, porra. Esses racistas incubados dão gás pra minha luta. A pele preta e o passado cê não enterra, corra. Tempos difíceis onde o amigo mostra sua conduta. E ele disse o que você pensa e não diz, né? Agora é minha vez de falar o que penso. Tá preocupado com o futuro do país, né? Vomita raiva baseado no bom senso. Ódio gera ódio e mais ódio. Onde vai chegar? A resistência ainda vive aqui no gueto. Que a minha liberdade vem aqui buscar. Tô vendo quanto você é limitado. Pro azar desse burguês eu tô tipo besouro. Esquiva na ginga, corpo fechado. Esse protesto propagado em couro. O rap é arma, cara. Se depender de mim o bozo não viverá. Não viverá. Muita revolta virá. Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar. Preciso olhar. Não diga que não avisei. Esse falso messias não é salvação. Não diga que não avisei. Quando o cenário for de revolução, eu fico puto porque pra mim cê parece cego. Essa colônia fede mais que decomposição. Luta de classe manipula essas peças lego. O 984 te apresenta o grande irmão. E a gente segue na desordem, retrocesso é fato. A história grita muito tempo, cê não quer ouvir. Cês seguem apoiando esse capitão do mato. Pela cultura é vida ou morte, me chame zumbi.
Eu não empregaria com meu salário. Ah, mas tem muita mulher que é competente. Jamais eu tô pra você que não merece.
Não, vagabunda.
Com quatro homens aqui, eu tenho fraquejado de uma mulher.
Ah, você é uma idiota.
Bicho,
você é
uma
ignorante. Você é uma ignorante.
Você tá querendo. Você não merece.
Me vejo entre multidões no fundo do poço. Faço parte da maioria, mas só me resta o osso. Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto. Anota no seu bloco, nós somos seu melhor gozo. Educação abandonada. Quer que a saúde pública seja privatizada. Vende argumento falho, mulher mal remunerada. Homofóbico, racista, isso sim é fraquejada. Presente de grego, lobo na pele do cordeiro. Vão ver quem gritar primeiro. Cê não bota a cara pra bater. Em todo sentido é dos que pede arrego. Tempos de guerra, eles Mussolini, nós Marighella. Resistência, nós somos Teresa de Benguela. Fabricam armas, produzem guerra. Fala que preto não se prolifera, desordem pera. Tamanha ignorância, se olha no espelho, não enxerga semelhança. Alimenta a maldade, estatística aponta. Promete falsa segurança. Quero ver se eu tô de pé, se resolvo fazer cobrança. Promete falsa segurança. Quero ver se eu tô de pé, se resolvo fazer a cobrança.
A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário, é o contrário.
Meus mano morrendo e vocês não vão fazer nada até quando, hein? Vou ignorar nós até quando, hein? Ver o sangue de quem tá jorrando, é. Não surpreende nem um pouco, nenhum de vocês tá ligando. É o baile e as bruxas tão solto. Pro rap vocês são uma vergonha. Vocês amam racista pra ficar na sombra. Pro rap vocês são uma vergonha. Vocês cagam na porra da história. E cê percebe que o inferno impera quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna. Me assusta de ver, não é só se foder. Enquanto vocês, judeus beijando o pé de Hitler. Minha solução é a causa feita tudo errada. Corda no pescoço e cê achou engraçado. Do fundo do poço vocês vão me ouvir alto. Faltam só 2 meses pra 64.
Não vai andar comigo, se apertou confirma. A renda mensal e a pele pra vocês é o que confina. Vota em fascista e é fã de rima. As armas que nos protegem são pagas com dinheiro da sua branca fina. Sua branca fina sarrando na Glock. Cê fala demais, então vou cuspir na sua cara. Que no fim de semana seus filhos estão na senzala. E um aviso, na ditadura não existe FP do Trimbala. Primeira vez que eu vejo o alvo e de encontro a flecha. Fecha a porta e ora pra no show não ser seu filho. Se Jesus voltasse, cês matavam ele de novo. E chamava de comunista por pensar demais do povo. Pôs o seu nome é uma piada pareada a trauma. Mas não reflete seu medo na vida dos outros. Se a nossa vida depende dele mandar ou não. Entre a escravidão e a morte eu escolho ser morto.
F7, primavera fascista, isso não é um teste. J.
vous êtes toujours sur Radio Canu, en plein dans le Canu Info, et vous venez d'écouter Primavera Fascista, une chanson ouvertement contre le nouveau président Bolsonaro.
Et on va continuer à parler de ce nouveau président Bolsonaro. Alors pour quelque chose qui finalement en réalité reste un peu anecdotique par rapport à tout le mal que ce bonhomme s'apprête à faire, qui va toucher sans doute des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens. Mais quand même, allez, puisqu'il va aussi faire du mal à quelqu'un qui est quand même à sa manière un camarade, on va parler plus précisément de cette personne et il s'agit de Cesare Battisti. Alors, la procureure générale du Brésil a demandé le document date du 30 octobre, mais du coup a été rendu officiel plutôt lundi, a demandé à la Cour suprême de trancher rapidement sur la légalité d'une extradition de Battisti en direction de l'Italie. Alors, Battisti, pour revenir rapidement pour les gens qui seraient trop jeunes et qui ne se souviendraient pas de Battisti a été condamné en 1993 par contumace en Italie à la réclusion criminelle à perpétuité pour des histoires de militantisme d'extrême gauche à la fin des années 70, au moment où en Italie les gens se tuaient quand même beaucoup beaucoup pour des histoires politiques. Battisti faisait partie d'un groupe politique qui a effectivement un peu buté des gens. Lui, a priori, nie que ça a été lui qui a tenu les flingues. Bon, en réalité, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a un moment où la France avait décidé d'accueillir les activistes d'extrême gauche italiens, de les accueillir et de ne pas les extrader vers l'Italie, à condition qu'ils arrêtent le militantisme illégal. Battisti avait fait partie de ces gens-là. Ça, c'était Mitterrand qui avait mis ça en place. Et puis, les années ont passé. Sarkozy est arrivé au pouvoir. À ce moment-là, en Italie, le président, c'était Berlusconi. Et Sarkozy, pour faire plaisir à Berlusconi, a dit « Ah, mais au fait, tout est vieux, tous les vieux d'extrême gauche qu'on a ici, on pourrait te les rendre. » Et là, une procédure s'était mise en place pour expulser, entre autres, Battisti, qui, entre-temps, était lui-même devenu un petit peu connu parce qu'il avait écrit des romans policiers. Et du coup, à travers ça, son cas avait été plus médiatisé que la moyenne des autres. Toujours est-il qu'au moment où les flics sont venus l'arrêter, ils ne l'ont pas trouvé, il s'était barré, il a fait une petite cavale, et puis finalement, on a retrouvé sa trace au Brésil. Au Brésil où, au moment du président Lula, à ce moment-là, il y a eu déjà l'Italie a déjà demandé son extradition. Il y a eu tout un bordel judiciaire, et puis qui avait donné un truc, mais finalement oui, mais finalement non. Toujours est-il qu'à la fin, c'est le président Lula qui avait signé un décret. Qu'il a signé le dernier jour de son mandat, ça date de 2010, un décret qui rejetait l'extradition de Battisti, quoi qu'il advienne. Et à ce moment-là, ce décret pourrait être considéré par la loi brésilienne comme irrévocable. La question de ça, bon, alors, c'est qu'en réalité, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Toujours est-il que Bolsonaro, pendant sa campagne présidentielle, a promis à l'Italie dont on sait maintenant qu'elle est dirigée par l'extrême droite, enfin l'extrême droite qui est en partie un peu de l'extrême gauche, mais vous voyez, c'est quand même globalement l'extrême droite. Bolsonaro a promis que s'il était élu, il le rendrait Battisti, et là, ils pourront enfin le mettre en taule pour le restant de ses jours. Bon, il a quand même 63 ans, hein, aujourd'hui, Battisti. Voilà, donc il reste à savoir, et c'est pas entièrement clair, si la Cour suprême du Brésil trouvera ou non que c'est possible légalement de revenir sur le décret de Lula. Alors théoriquement, Bolsonaro lui-même, de sa place de président, alors pour l'instant il n'est pas encore rentré en fonction, mais même quand il sera rentré en fonction, lui, il n'y peut rien. C'est vraiment à la Cour suprême de décider. Mais le fait qu'il y puisse rien, on n'est pas trop sûr de ce que ça va changer, puisque dans la pratique, son arrivée au pouvoir instaure de toute façon une ambiance à laquelle les magistrats ne sont visiblement pas complètement insensibles quand même, et c'est possible qu'ils aillent aussi dans cette direction-là.
Et on peut juste préciser, l'Italie n'est pas dirigée par l'extrême droite et l'extrême gauche quand même. Elle est dirigée par l'extrême droite et un mouvement populiste.
C'est ça.
Qui fait vaguement du social, mais qui est surtout anti-immigration.
C'est ça.
parle de la Colombie où des paysannes résistent aux attaques de l'État. Fin octobre 2018, donc c'est il y a deux semaines à peu près, à San Vicente del Caguán, dans le département de Carhueta, des affrontements ont opposé des paysannes aux forces anti-émeutes de l'ESMAD. Alors, beaucoup des 8000 habitants du coin ont empêché les autorités d'accéder à des terres désormais déclarées réserves naturelles. Et pour cause, les familles des habitantes en question y vivent pour la plupart depuis 1959. Contre cette menace d'expulsion, les habitantes ont défoncé le bitume des routes et détruit quelques ponts que les habitantes, eux et elles-mêmes, avaient construits. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, réserve naturelle, capitalisme vert, et on empêche des gens qui habitent là depuis des années d'y résider. Les flics ont brutalisé physiquement plusieurs personnes et ont fait un usage tristement habituel de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. La route menant de San Vicente del Caguán à Basilias a ainsi été réouverte par les flics qui en ont profité pour arrêter une dizaine de personnes, détruire quelques habitations et balancer des lacrymos dans des maisons, sans toutefois réussir à expulser qui que ce soit, pour le moment en tout cas. Donc c'est vraiment, comme vous venez de l'entendre, un sacré foutage de gueule de la part de l'État qui cherche à virer des paysannes de leur domicile sous des prétextes écologiques, tandis que par ailleurs le pays est détruit en toute impunité, notamment par de multiples projets de mines, donc contre le capitalisme vert et toutes ses formes. On le redira jamais assez, et solidarité donc à ces paysannes en lutte. Et on finit ce Canu Info par des trucs qui vont se passer dans les rues lyonnaises dans les prochains jours. Donc d'abord, parlons des cheminots. Et notamment, puisque Macron, Pépi et Wauquiez organisent la casse de l'organisation ferroviaire avec leurs réformes, leurs conventions TER, etc. Et il y en a d'autres qui veulent rester avec un service public de qualité, fiable et pratique pour se déplacer. Bon, on parle du passé parce que là, c'est déjà plus le cas. Mais bon, on peut y revenir, par exemple. Donc, des lignes pas seulement destinées aux femmes et aux hommes d'affaires, ou un service de troisième classe qui nous fait partir de gares excentrées. Donc c'est pour ça que le secteur fédéral CGT appelle les cheminotes du périmètre Rhône-Alpes à la grève. Donc il y a un préavis qui est posé de jeudi 8 novembre à 18h au samedi 10 novembre à 8h du matin, couvrant l'ensemble du personnel du GPF du périmètre donc Rhône-Alpes. Et la CGT appelle également à participer à la manifestation organisée le vendredi 9 novembre à 12h à la gare Perrache sur l'Esplanade, en direction du conseil régional Aura. Et donc, je peux vous dire les exigences qu'ils ont. C'est l'arrêt de la casse de l'emploi. Par exemple, les portiques pour valider son titre de transport ou la multiplication des bornes d'achat. Si vous voyez d'autres exemples, n'hésitez pas à participer. Voilà. L'arrêt de la fermeture des lignes, des guichets, des gares et de la suppression des dessertes. Donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à prendre leur voiture pour aller au travail alors qu'ils habitent à un village qui était desservi par une gare et qui ne peuvent plus y aller en train. Du recours à la sous-traitance donc, et à la filialisation de fret SNCF. Donc par exemple, sur la sous-traitance et la multiplication de lignes de troisième classe, autrement dit les Ouigo et compagnie, leurs exigences, la dénonciation, l'arrêt de la dénonciation des accords locaux qu'ils essayent de mettre en place, mais là-dedans il n'y a pas que la CGT, il y a plein d'autres syndicats. Donc voilà, donc je vous ai dit, vendredi 12h, Perrache. Esplanade. Et un autre truc qui se passe dans les rues, donc ça sera samedi 10 novembre à 17h, contre un rassemblement contre les agressions sexistes et hétérosexistes. parce que la manif pour FAF cherche, donc on a bien compris le jeu de mots, manif pour tous, manif pour FAF, cherche à reprendre de la place dans les rues contre la PMA. Et donc, j'avais envie, à cette occasion-là, de vous lire des extraits du communiqué de presse du 13 octobre de la 22e Existrance. Et qu'est-ce que c'est l'Existrance ? C'est la marche des personnes trans et de leurs alliés. Et je trouve que les exemples illustrent très bien les politiques de la France là-dedans. Et pour donner de l'argumentaire pour venir à cette manifestation. Ou demain rassemblement. La France en 2018, c'est le meurtre normalisé de Vanessa Campos, femme trans, travailleuse du sexe et migrante, abattue au bois de Boulogne dans la nuit du 16 au 17 août par une bande déjà signalée de longue date aux autorités inertes par les travailleuses du bois. C'est aussi le raid policier organisé dans la nuit du 5 mars au bois de Vincennes, en plein lancement du SIDAction. Le SIDAction, c'est la journée pour lutter contre le VIH. Et du coup, il y a plein d'assos qui luttent et qui s'organisent autour du SIDAction. Avec déploiement de chiens et d'un commissariat mobile à la clé pour mieux traquer les travailleuses du sexe nigériennes. La France en 2018, c'est l'adoption le 1er août à 100 voix contre 15 du projet de la loi raciste Asile et immigration qui promet de priver de recours des demandeuses d'asile trans et intersexes déjà livrées en pâture à la subjectivité des agentes chargées de statuer sur leur crédibilité, de leur récit de vie, d'allonger la durée de rétention administrative et d'expulser des personnes séropositives vers des pays où elles seront en danger de mort faute de traitement et de suivi disponible. Les personnes intersexes, je le redis, c'est des personnes qui, en naissant, n'avaient pas un genre clair. Leurs organes sexuels n'étaient pas assez développés, donc les médecins ont choisi arbitrairement si c'était un homme ou une femme. Et du coup, ça, c'est de la mutilation. Les personnes intersexes appellent ça de la mutilation parce qu'il y a des opérations forcées et de l'hormothérapie forcée. Alors que ce qu'elles demandent, les personnes intersexes, c'est de choisir... à la puberté, à l'adolescence, de faire un choix d'être dans un genre ou dans un autre. Je continue. C'est aussi l'absence totale de remise en question institutionnelle au lendemain de la publication par Médecins du Monde, le 12 avril, des résultats accablants de l'enquête interassociative nationale sur le bilan de la loi d'avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Donc le résultat montre que 38% des sondés rapportent des difficultés accrues à imposer le port du préservatif associé à une exposition accrue au risque de contamination VIH, donc, et IST, les infections sexuellement transmissibles. 63% signalent des conditions de vie dégradées, tandis que 70% déploient une détérioration de leur relation avec la police de par l'utilisation d'arrêts municipaux, multiples comme outils de répression et de multiplication des contrôles aux faciès. Donc tout ça, ça n'aide pas les travailleuses du sexe. Et pourquoi on parle beaucoup de travailleuses du sexe là dans l'existence, c'est pas parce que c'est aussi une réalité que beaucoup de femmes trans sont aussi travailleuses du sexe. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et que c'est aussi les personnes les plus précarisées autour d'agressions. Donc que ce soit en premier lieu de la part de l'État, vraiment, que ce soit la police et autres administrations, mais aussi de la part de tous les humains dans la rue, etc. Et la France en 2018, c'est le silence assourdissant des ministres de la Santé et de la Justice face à la campagne nationale pour l'arrêt des mutilations sur les enfants et adolescentes intersexes, lancée le 10 septembre par le collectif Intersexes et Alliés et l'OII France. Alors, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil d'État et le Défenseur des droits se sont rangés derrière les avis de l'ONU et d'organismes internationaux tels que Human Rights Watch et Amnesty International pour demander l'arrêt des examens invasifs, du suivi psychiatrique imposé, des traitements hormonaux non consentis et des interventions chirurgicales superflues opérées sur les enfants et adolescentes intersexes. Les protocoles médicaux français continuent à recommander ces pratiques et les équipes médicales à les appliquer. Donc contre cette France méprisante qui dédaigne l'expertise de terrain et les revendications unitaires de ses associations et collectifs, contre cette France irresponsable qui n'a que faire des recommandations de ses propres institutions à des organisations internationales de défense des droits humains et de lutte contre le VIH-SIDA, contre cette France inhumaine qui expulse, mutile et précarise en toute impunité les personnes trans et intersexes. Donc contre cette France raciste, abolitionniste, sexiste et hétérosexiste. Et donc contre la haine plus mondialement, parce que Bolsonaro au Brésil appelle à une purge homophobe, lesbophobe, transphobe, et que Trump a déclaré vouloir faire disparaître les personnes trans. Il est urgent d'agir et de se soutenir et de créer ensemble pour lutter. Voilà, donc venez dans les rues, samedi à 17h, place des hétéros. Voilà, moi c'était mon mot de la fin.
Bah, bon, bah, très bien. Alors, samedi 17h, place des hétéros. Et puis autrement, nous à l'antenne, on se retrouve plutôt mercredi prochain.
Bah ouais. On vous laisse avec Idées Noires à 20h, c'est ça?
Ouais, et en attendant, 9 minutes d'une petite musique des bandes continues de Radio Canu.
Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée. Yeah.